Paroles rurales, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Pierre et Sophie, merci de nous recevoir aujourd'hui aux Infrus sur le plateau du Larzac, non loin de la Couvertoirade, pour nous faire partager votre passion pour l'élevage des limousines.
Pierre Baudot, on est aux Infrus, sur la commune de la Couvertoirade, et je suis éleveur de bovins viande. On produit essentiellement des veaux. Je suis installé ici depuis 2007.
C'est ton métier d'origine ?
Pas du tout. Sur cadre familial, j'ai repris une exploitation et c'est un hasard complet. Enfin, j'avais des études agricoles quand même, d'agronomie et de machinisme agricole. Et en fait, avant ça, on animait un lieu qui est juste à côté, là, à côté de l'exploitation. La Mostra, ça s'appelait un lieu collectif où on faisait de la diffusion de spectacles. Suite au décès des associés, enfin d'abord un, puis après des coups de main, ils m'ont proposé la ferme. J'ai repris. La structure n'est plus du tout identique à celle d'avant, hein, mais très content, ouais.
Tu as repris une ferme traditionnelle
ou... Une ferme traditionnelle, ouais, en agriculture conventionnelle, avec énormément de vaches. Il y avait 75 mères, maintenant on n'en a plus que 30. Eux étaient en commercialisation classique, quoi, au maquignon, pour des grossistes. Et nous, on vend tout en direct, intégralement, à 100%.
Tu dis nous, c'est-à-dire que c'est très...
Moi et ma compagne, on est en Gaec.
D'accord.
Ouais, qui est quelque part par là. J'arrive juste, donc j'ai pas eu le temps de la voir.
Et pareil, elle est arrivée dans le métier comme
toi ? Il y a 2 ans, elle.
D'accord.
Elle a recommencé il y a 2 ans. On s'est associés suite à un changement de carrière, elle.
D'accord.
Elle était à Tsem avant et maintenant on est...
Et alors vous arrivez à avoir du temps pour le couple, les enfants si vous en avez ?
Oui, 3 enfants, 2 pour ma compagne et 1 qu'on a en commun.
Ouais.
Et oui, on a du temps, peu de temps pour partir en vacances, mais on a du temps pour la vie familiale. Nous on a un tout petit troupeau donc on n'est pas... On n'a pas une grosse astreinte journalière, surtout l'été. C'est bon, on n'est pas trop contraint par l'astreinte du troupeau. Sauf qu'en période de vélage, qui pour nous est toute l'année, donc il faut quand même qu'on surveille régulièrement. Et après l'hiver, là, la ration se donne assez rapidement, donc c'est quoi, 2 heures de travail le matin pour donner la ration de fourrage. Après, nous, on a une grosse partie commercialisation, puisqu'on fait découper par un prestataire de service, mais on en transforme une partie nous-mêmes dans un labo qu'on loue. Et après, on commercialise tout nous-mêmes dans 2 boutiques qu'on tient nous-mêmes. Tour de rôle. Hein. Alors, on commercialise essentiellement des veaux de moins de 8 mois, qui sont élevés au lait de la mer, plus un peu de foin et un peu d'herbe l'été, quand ils sont dehors. Parce qu'on ne sépare pas les veaux des mères. Donc, c'est pas du veau blanc traditionnel comme il se fait dans le Nord Aveyron. Le veau reste avec sa mère. Si la mère sort, le veau sort. Voilà, par contre, on abat à moins de 8 mois impérativement et on vend aussi quelques vaches de réforme.
Et le fait de laisser le veau avec sa mère, ça change la viande ?
Ouais, la viande est beaucoup plus rosée donc et un peu moins grasse aussi. Parce qu'on ne complémente pas, ils sont uniquement élevés au lait. Là, en ce moment, elles sont dehors.
D'accord.
Là, cette année, on est sorti fin mars. Si tout va bien, elles rentreront qu'en décembre. Bah, une partie du plateau, on amène des cuves à eau. Et pour l'autre partie, on a un parcours qui est sur les contreforts du Larzac, là. Il y a des sources. En général, l'été, une année normale, on ne donne pas d'eau.
Donc est-ce que c'est la quille pendant 8 mois pour vous ou...
Parce qu'on a quand même les fenaisons, toute la commercialisation, c'est toute l'année. Et la surveillance au troupeau, c'est aussi toute l'année. Parce qu'on a des vélages constants. C'est-à-dire que si on est en monte naturelle, il y a un taureau en permanence avec le troupeau. Donc quand une vache revient en chaleur après son vélage, elle est de nouveau pleine 2 mois après son vélage.
D'accord.
Donc du coup, on a des naissances tout le temps, toute l'année. 9 mois et 18 jours gestation.
Pas de répit pour la vache ?
Non.
Bon, et elles n'ont pas monté un syndicat ?
Non.
D'accord.
Non, après, nous, les vaches, on ira les voir après, mais elles sont... Comment dire ? Elles sont pas en surproduction, c'est-à-dire qu'elles ont juste un seul veau à élever, et le veau est retiré de la mer au bout de 8 mois. Donc après, il y a tout ce temps où finalement, elles ne font plus rien.
D'accord.
Entre les 8 mois et le vélage.
D'accord.
Donc on n'a pas de problème de vaches qui sont suralimentées pour pouvoir produire. Non, c'est pas du tout ça, l'élevage est très extensif.
Et le taureau, il ne s'épuise pas alimenter comme ça 20 vaches toute l'année ?
Non, il ne s'épuise pas. Au contraire, il est très gras le taureau.
Ah ouais, okay. Il pèse combien dans le taureau ?
Je sais pas, autour de la tonne. Alors nous, au chaud ici, elles sont cabasses d'herbe, pas de céréales, en première coupe de foin, un peu d'enrubanné quand l'année est humide, quand on n'arrive pas à sécher le foin, et après de la seconde coupe de luzerne pour les vaches en lactation. Alors nous, on a choisi de ne pas faire de céréales parce qu'on en consomme très très peu en temps normal. Donc on produit uniquement de l'herbe, des prairies naturelles ou des légumineuses type luzerne, sainfoin, trèfle. Et après, on achète toute la paille pour la litière de l'hiver. C'est notre seul achat extérieur en année normale, la paille, c'est tout. Et après, nous, on est en non-labour, c'est-à-dire qu'on travaille très peu les sols, on essaye tant que faire se peut d'avoir des prairies naturelles qu'on entretient. Et pour les prairies qu'on doit détruire ou améliorer, on fait soit du semi-direct, soit un travail léger et on ressème au printemps. La culture est en place pour plusieurs années. Et après, on a un petit atelier maraîchage. Enfin non, c'est pas maraîchage, c'est légumes de plein champ qu'on arrose avec l'eau pluviale des bâtiments et où on produit carottes, poireaux et oignons. Non, pour les magasins. Alors l'atelier découpe, il y a un prestataire qui travaille pour nous, qui est le labo de découpe de Camarès, que vous connaissez. Et après, on commercialise notre viande dans deux boutiques de producteurs, donc une à Gignac, une à Saint-Gély-du-Fesc. Et entre deux livraisons, en fait, les DLC de viande se chevauchent. Et la réglementation nous autorise à récupérer la viande qui n'est pas encore vendue, mais qui est 6 jours avant la fin de la DLC de la viande. On peut récupérer cette viande, la transporter dans des caissons froids, à un labo qu'on loue à Trèves, et on la retransforme, nous, en petits... on appelle ça des chaussons de viande, donc c'est une pâte brisée qui entoure de la viande et qu'on recommercialise après en boutique.
D'accord.
Voilà, mais qui est cuit. Du coup, on peut se permettre de la remettre en vente. Tous les 15 jours, on transforme là-bas et on recommercialise. Ça évite d'avoir des invendus, quoi. Et là, on vend 26 veaux par an, de près de 2 veaux par mois.
Et pourquoi vous avez choisi de faire de la vente directe ?
Pour la rémunération. Non, parce qu'on vend bien mieux, on valorise bien mieux nos produits que dans le circuit classique.
Tu peux nous donner un exemple ?
Oh ben, un veau classique dans le circuit normal, c'est 1000 euros, un maquignon.
Pour combien de kilos ?
À peu près 140 kilos carcasse.
D'accord.
Et là, c'est 2500 en remise directe. Okay. Donc on a quelques charges dessus, mais ça tente pas non plus.
Mais c'est au détriment du consommateur ?
Pourquoi ?
En termes de prix ?
Ah non, c'est au détriment du grossiste qui s'en fout plein les poches.
D'accord.
C'est pas du tout au détriment du consommateur.
Le consommateur est gagnant, il a un meilleur produit et il paye pas plus cher, voire même moins cher. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu en penses de tous ces intermédiaires qui parfois...
Moi, rien, j'en pense rien, j'ai juste fait le choix de les court-circuiter, c'est pas pareil.
Et vous êtes nombreux à le faire ici, sur le territoire du Causse ?
Ouais, il y en a de plus en plus, ouais, ça se développe quand même. Nous, l'année dernière, qui n'était pas une année bien terrible, notre chiffre d'affaires a progressé, quoi. Par rapport à... Enfin, on dit toujours les années de crise, mais on a quand même progressé, quoi. Il y a certains consommateurs qui font attention maintenant et qui s'aperçoivent qu'on peut acheter moins cher si on fait gaffe.
Mais est-ce que les consommateurs apprécient la qualité ?
Oui.
Est-ce que
oui, s'ils reviennent.
Vous avez un retour ?
Oui, non, s'ils ne reviendraient pas, si on ne perd pas de clients. Donc, s'il n'y avait pas la qualité, on les perdrait. Et on voit toujours les mêmes. On a un magasin... qu'on a ouvert à Saint-Gély-du-Fesc il y a 13 ans. Et on voit toujours les mêmes personnes tous les jours. Et nous, on n'a pas de matériel sur notre exploitation. Enfin, on a un tracteur. Mais après, tout le matériel attelé par le tracteur, on l'a en collectif là, au sein de la CUMA. Plus, on a un chauffeur à plein temps qui assure les gros travaux. Et un tracteur qui fait toute la partie pressage et travail du sol. On a des charges de mécanisation, mais qui sont bien moins élevées si on avait le matériel en nom propre. Enfin, on fauche 35 hectares par an. Acheter une faucheuse pour 35 hectares par an, c'est pas rentable.
Et si tu viens abîmer un des engins en faisant ton travail sur un caillou, qu'est-ce qui se passe ?
Je paye la réparation. Sauf d'accord. Si la casse n'est pas due à mon travail. Moi, je ne pourrais pas faire ça.
Mais c'est pas trop frustrant de ne pas avoir son propre matériel ?
Au contraire. Enfin, on entretient l'entretien courant lorsqu'on l'a utilisé, quoi, on regresse. Mais on n'a pas les soucis d'entretien en hiver, tout ça. C'est... Sinon, au contraire, c'est beaucoup plus souple.
Et c'est pas trop compliqué avec les collègues, vous me disiez que vous étiez 50.
Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est plus compliqué, ouais. Là, en ce moment, c'est le plein coup de bourre.
Oui.
Donc là, c'est plus compliqué. Ouais.
Vous avez un calendrier, comment vous faites
pour... Oui, on a un planning pour les récoltes. On a des responsables qui assurent, qui s'occupent de faire le planning.
Et est-ce que ça peut faciliter le lien sur un territoire entre agriculteurs?
Oui.
Le fait de partager le matériel?
Oui, c'est important parce que déjà, on se retrouve tous ensemble. Une fois par an pour faire l'Assemblée Générale, plus des conseils d'administration pour faire vivre la CUMA, plus les coups de fil aux voisins pour le matériel et tout. Sinon, quelqu'un qui a tout son matériel tout seul, il croise personne. En CUMA, on voit du monde, hein. On se retrouve, on se discute, c'est important. Si on n'avait pas ça, on ne verrait pas grand monde.
On a rencontré quelques agriculteurs ou éleveurs qui étaient parfois en difficulté parce qu'ils ne connaissaient pas grand monde et ils échangeaient pas trop sur leurs difficultés quand ils en avaient. Ouais. Est-ce que toi, dans ton mode de fonctionnement, tu as ta compagne, mais est-ce que tu as d'autres éleveurs ou agriculteurs avec lesquels tu peux parler quand tu es en difficulté pour un problème mécanique?
Ah ben oui, ou autre. Parce que tous les jours, moi je suis responsable du pressage au sein de la CUMA. Tous les jours, il y a plein de coups de fil, on peut discuter, parler de tout et de rien. C'est important. Ça se lâche dans l'agriculture.
C'était pas pareil avant ?
Je pense pas. C'était plus refermé avant, il me semble. Maintenant, bon, après, les grosses difficultés, peut-être qu'elles mettent longtemps à sortir, mais dans le secteur, on est un peu protégé quand même. Il y a le système Roquefort qui fait que les ventes sont toujours présentes. Fort, on a beau dire, faut pas cracher dans la soupe, hein. Ils font vivre un paquet de monde. Même s'il y en a qui sont allés dans d'autres laiteries, il y en a qui sont dans certaines exploitations, mais c'est pas... Et il me semble qu'on est assez protégé.
Est-ce que tu as besoin des aides européennes pour vivre, la PAC?
Évidemment, c'est obligé, pas de choix. Parce qu'on a acheté la ferme il y a 5 ans, donc les annuités sont assez élevées. On a emprunté beaucoup, quoi. Sans ça on ne pourrait pas faire. Ou alors il faudrait augmenter le prix de la viande d'un tiers, quoi, au moins.
Et le consommateur ne suivrait pas?
Je suis pas sûr.
Tu les testes un peu?
Non. J'ai pas besoin de tester en ce moment. On vend plus que ce qu'on touche en termes des packs. Donc j'ai pas trop scrupule à en recevoir. Mais c'est vrai que dans d'autres exploitations, c'est l'inverse. Un désir, je pense que c'est le désir de tous les agriculteurs. On n'est pas fiers de toucher ça. Enfin, je crois pas. Enfin, moi, j'en suis pas fier en tout cas. Si je pouvais faire 100, je ferais 100. La PAC représente, je dirais, les 2/5 pour le chiffre d'affaires, quoi.
Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à un jeune?
Oui. Oui. Enfin, en tout cas, comme je le conçois moi, oui. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'astreintes. On part très peu en vacances, 15 jours en hiver, et pas d'affilée. Mais après, on arrive à prendre nos week-ends. Là, en ce moment, si on a envie de pas travailler le week-end, on travaille pas. Les vaches sont dehors, si on n'a pas de surveillance particulière. C'est le salarié de la CUMA qui nous remplace. Plus commode de me faire remplacer l'hiver que l'été, disons. L'hiver, les vaches sont dedans. En termes de pépins sur le troupeau, c'est facile à gérer. Que l'été, s'il y a un pépin, il faut de suite rentrer tout le troupeau. Ben, nous, on est associés. Alors, c'est dommage qu'elle soit pas là. Chacun notre boulot, en fait. Sophie s'occupe de la partie commercialisation. Enfin, c'est elle qui tient toutes les boutiques. Moi, je m'occupe toute la partie troupeau et elle fait aussi la partie production de légumes de plein champ. Consommer local, c'est important parce que c'est ça qui fait vivre tout un paquet d'exploitations maintenant. Et après, un petit mot en ce moment par rapport à la fermeture de l'abattoir de Saint-Afrique. Ça, c'est un gros problème pour nous parce qu'avant, on abattait là-bas. Là, il est fermé pour une période indéterminée et qu'on est obligé d'aller à Rodez. Parce que ça nous fait beaucoup rouler, ça fait rouler les animaux, et le transport, c'est pas bien terrible. Pour la vente directe et pour les circuits courts, ça pose beaucoup de problèmes.
She in. Oh. walk like an Egyptian.
Le fait quand même d'avoir cette vente directe, ce contact avec les clients, c'est bien quand même, parce que ne jamais sortir de la ferme...
C'est compliqué, ouais. C'est ce que dit Chantal.
Je pense, ouais.
Une femme, ça reste souvent à la ferme, ça gère tout. On a vu aussi une ancienne là, qui disait « Je me suis occupée de mes parents, des parents de mon mari, je m'occupe de la compta, je m'occupe de la cuisine, je m'occupe du potager, et maintenant je suis à la retraite, j'ai zéro retraite. Ouais. Mon mari, il en a trop, il ne peut même pas me le donner. »
Et ça, ça a changé depuis, je pense pas qu'il en reste des conjointes collaboratrices ou...
C'est quoi votre grand gros derrière? C'est là que vous anticipez tout?
Non, c'est le planning des naissances, ça.
Waouh.
Une épingle verte, la vache a vélé.
D'accord.
Une épingle rouge, elle a pas vélé, mais c'est la date de vélage de l'année précédente. Donc celle-là a vélé en juin 2022, le 14 juin 2022. Donc le prochain vélage devrait pas tarder à arriver, là.
Mais tu vérifies pas qu'elle soit pleine ou qu'elle était...
Alors, les vaches pleines, c'est les épingles dorées. D'accord. Quand elles sont dorées, c'est qu'elles étaient pleines au moment de du test,
donc,
de gestation.
Et le test, comment vous le faites?
C'est une prise de sang.
D'accord.
Puisqu'on a une prise de sang obligatoire tous les ans, surtout dans les élevages bovins.
D'accord.
Depuis la vache folle, on fait des prophylaxies, on contrôle les maladies. Donc en même temps, il y a une partie du sang qui sert à faire un test de gestation.
Faites pas les échos vous-même?
Non, on a des autotests.
Ouais.
Ah, oui.
Pour tester où on fait la prise de sang nous-mêmes. Mais on ne l'a jamais utilisé encore. Après, on peut réacheter un échographe.
Ouais.
Mais on ne s'y est pas mis parce que nous.
Avec ça, ça va quoi.
Ça nous va bien. Ouais.
Voilà. Puis le taureau est vaillant.
Bah oui, parce qu'il
n'a
pas de.
Oui.
On n'a pas de retard de.
D'accord.
Là, tu vois, celle-là par exemple, elle est un peu en retard puisqu'elle a vélé en février de l'année dernière.
Donc elle n'a toujours pas vélé.
Elle n'a toujours pas vélé. Faudrait pas trop qu'elle se retarde là. Sinon, je pense qu'une fois qu'elle aura vélé, elle partira à l'abattoir.
Parce qu'en plus, elle est relou. Hein.
Elle a un mauvais caractère. Donc, nous, on a un petit troupeau, 30
oui,
vaches.
Il y a que 30 vaches.
Il nous faut 26 veaux par an. On n'a pas trop le droit d'avoir des vaches non productives. On les laisse tranquilles, on prend soin de bien les nourrir. Si des vaches bien nourries, elles produisent.
D'accord.
Elle fait des veaux quoi. Après, on a été suivi par un technicien pour avoir une meilleure alimentation.
Ah, ok.
Basé à base de fourrage et de fourrage de bonne qualité.
Ça a changé quelque chose?
Tout.
Disons en fait, Pierre, avant, il avait 35 vaches pour assurer 26 veaux.
Ouais.
Et là, maintenant, on a 30 vaches.
Et on a toujours 26 veaux.
Même plus.
Ah, okay. Même plus.
Et juste en changeant la qualité du fourrage?
Ouais. En faisant plus attention à la qualité du fourrage qu'on donne en hiver.
Et la mise à l'herbe aussi?
Et les mises à l'herbe.
D'accord.
C'est-à-dire que maintenant, on fait des mises à l'herbe longues. Au début, à la sortie de l'hiver, on les sort 20 minutes. Puis on augmente à une demi-heure et puis ainsi de suite. Enfin, la mise à l'herbe dure un mois, quoi.
Jusqu'à, ouais, dit, il s'habitue, en fait.
Jusqu'à ce qu'elle reste dehors tout à plein temps.
Avant, en fait, sur cette roue, il y avait vraiment un gros écart. À un endroit, en fait, il n'y avait pas de vélage parce que, en fait, 9 mois avant, enfin, peut-être pas 9 mois avant, mais au moment de la mise à l'herbe, elles avaient eu un choc au niveau du transit, quoi.
Ouais.
Et que, du coup, ça avait bloqué toutes les prises du taureau, quoi.
Vous les vaccinez, vous leur donnez des antibiotiques, vous faites quoi?
Pas d'antibiotiques, pas de vaccination, pas de vermifuge non plus.
Voilà. Que du naturel.
Autant que possible. Ce qui n'empêche pas un antibiotique.
S'il y a un problème quand même.
S'il y a un problème. Hein. Une vache qui a de la fièvre ou qui a une infection, on ne va pas la laisser crever juste parce qu'on ne va pas donner d'antibiotiques.
Une mammite, vous traitez automatiquement ou vous attendez un peu avec de l'argile?
Non, pas de mammite.
Pas de mammite?
Non. Ça n'existe pas ici.
Bon,
parce que c'est pas des vaches qui sont traites aussi.
Ben, déjà, c'est des vaches à viande.
Oui.
Donc, elles n'ont pas une quantité de lait astronomique. Et quand on retire le veau de la mère au moment de l'abattage, la vache reste quelques jours dedans pour éviter qu'elle reçoive encore de l'herbe fraîche dehors et qu'il fasse que la production de lait continue. Quoi.
D'accord, ok.
C'est tout.
Pour le sevrage.
Ouais. Après, on est limité en antibiotiques hein, quand même. C'est pas plus de 1 par an. 2 par an.
En bio. Pour être en bio?
Ouais. Mais on n'y est pas du tout.
Dernière fois, on en a donné celle qui a fait
une matrice. C'est-à-dire c'est tout l'utérus qui
se retourne,
qui sort.
Ouais, mais ben.
Donc là, pour éviter les infections, il faut donner un antibiotique.
Vous faites les mises à battre en temps quand c'est compliqué vous-même?
Ça arrive, mais là, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu.
Si. Une fois, ça arrive d'intervenir
La belle étoile, c'est le dernier qu'on a tiré.
Non, tu n'avais pas fait avec Alexis.
Ah, vous leur donnez des petits noms.
C'est particulier, c'est parce qu'elle est née pendant le confinement, qu'on n'a pas trouvé de lait.
Sa mère est morte.
Sa mère est morte. On n'a pas trouvé de lait en poudre pour élever le veau. Du coup, on n'a pas pu rentrer le veau dans le circuit classique. Du coup, on l'a élevé avec du lait conventionnel parce qu'on en a trouvé. On a pris ce qu'on a trouvé.
Et du coup, c'était l'occupation du confinement.
Du coup, c'est un veau qu'on n'a pas pu commercialiser puisqu'il n'était pas considéré bio.
Ah, ok, d'accord.
Du coup, on l'a gardé comme génisse.
Donc, il habite à la maison.
Non, il sert dans le frigo. Elle est dehors, mais elle est, voilà.
D'accord.
Mais elle a fait une petite année.
On l'avait vu au biberon, quoi.
Ah ouais. Un petit bio, quand même.
Un petit bio, oui.
C'est bio au bout d'un an et demi.
Bio, 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 bio. Le sel, il est bio, 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 bio. La poêle, elle est bio, 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 bio. Y'a rien qui est pas bio. Mon père, c'est bioman. Et ma mère, ben, c'est sa femme. Ensemble, ils sont bio, 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 bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y'a même plus un morceau de beurre. Et moi je rêve.
Y'a peut-être trop de vaches
de hamburger.
Pas trop de vaches élevées à l'air.
Mais elles pètent moins les tiennes.
Je sais pas si elles pètent moins, mais en tout cas elles consomment des prairies naturelles, donc qui absorbent plus de CO2 que ce que mes vaches produisent, je pense. La Cour des comptes se plante quand elle dit qu'il y a trop de vaches élevées à l'herbe. Je pense qu'il y a trop de vaches intensives, oui, ça c'est possible. Ça. Si on élève à l'herbe, je vois pas où il y a un problème. Enfin, nous, on s'amuse pas à faire de culture gourmande en flotte, des prairies permanentes. C'est des espaces entretenus, mais c'est tout. Hein. Elles n'ont pas nécessité de mettre en œuvre des litres et des litres de gasoil pour produire. Quoi. Du coup, elle produit, mais elle sert aussi à l'entretien du paysage, quoi. Avant de...
Amis auditeurs, manger bio et du veau rose.
Rosé, ouais.
Rosé.
Ouais, et puis aussi, il y a le fait que nous, on est deux à vivre avec un troupeau de 30 vaches, quand même.
Ouais.
Et c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a des gens, ils sont complètement dépendants de leur boulot. Ils ont 100, 150 vaches et ils n'arrivent pas à sortir des salaires. Hein.
On charge beaucoup d'intrants, beaucoup de matériel.
Et la valorisation,
et la valorisation du produit. Un veau produit chez nous et commercialisé comme on le commercialise, vaut deux veaux, voire trois veaux en circuit classique. Hein. Quand il y avait 80 mères ici, il fallait acheter du fourrage tous les ans, il fallait chercher des surfaces tout le temps pour des estives l'été, enfin c'était sans fin. Quoi. Là, on se contente de nos 130 hectares. Hein.
Donc vous avez réduit, et finalement, c'est mieux.
Oui.
Réduit, valorisé.
On prêche pas la bonne parole, hein. C'est pas du tout ça, c'est juste il y a plusieurs systèmes possibles. Peut-être que des systèmes industriels sont rentables, mais c'est pas un système dans lequel où on se reconnaîtrait. Chacun fait son choix de production. Des collègues qui ont 100 vaches, qui vendent le lait à Lactalis, tout ça, vivent très bien. Mais c'est pas un système qui nous conviendrait.
Mmh. Oui, puis il y a des.
On se reconnaît pas dedans en tout cas.
Il y a des gens, des fois, ils ont des emprunts à la gueule, ils peuvent pas faire autrement.
Reprendre.
Qui produisent.
Oui, oui, qui peuvent pas reculer. C'est compliqué de reculer. Mmh. Quand tu as un système et que tu as les charges en fonction de ton système, eh ben, si tu veux reculer tout en assumant les charges qui sont déjà en place. Eh ben, tu serres la ceinture pendant 3 ans. Hein. Oui, il faut y croire.
Combien ça pèse une vache adulte? Limousine, là?
Ouais, nous, elle tourne entre 750 et 800 kilos.
D'accord.
Cherche ce qu'elle soit rustique, productive. Faire des veaux pas trop gros pour qu'elle veille toute seule.
Et ton taureau est là aussi? Le gros là,
vache,
là. Il a pas de cornes?
Non.
Un taureau sans cornes?
Il a des cornes mais coupées. Les vaches par contre en ont toutes.
Il est tranquille ton taureau?
Ouais.
On n'est pas tous égaux face aux lois de la nature. J'en connais un niveau mesure. Il a vraiment ce qu'il faut. Il va dans le Limousin, il fait un carnage. Elles sont comme des dingues, comme on manque de fourrage. Au salon à Paris, il remporte tous les prix. Ses paillettes, ses douleurs, elles se vendent au prix fort. Il est beau, il est beau, qu'est-ce qu'il est beau mon taureau. Il va pécho, il va pécho, pécho le volo. Il est beau, il est beau, qu'est-ce qu'il...
Mais elles ont les pieds bien pleins quand même.
Oui. Toutes celles qui sont en lactation là.
À
D'accord. Elle a la corne tordue. Là.
Un coup, probablement.
Ah, elle aussi. Alors, elles sont tranquilles. Tranquille, tranquille. C'est pourtant enregistré, regarde. Alors, on a le taureau qui est juste à côté, avec sa tonne. Heureusement, il a les cornes coupées. Et il est bien pourvu, hein. Ah, le petit veau. Ça pèse combien, petit, à la naissance?
Une quarantaine de kilos. Enfin, elles font leur dernier jour ici, encore jusqu'à lundi ou mardi. Après, elles vont repartir à côté des bâtiments, puisqu'on a un ou deux veaux à boucler, là, qui sont nés il n'y a pas longtemps. Et après, elles vont descendre dans la vallée pour l'été, à partir du 10-15 juin.
Est-ce que tu arrives à anticiper un peu leur réaction, s'il y en a une qui veut pas te voir, ou tu sens que...
Oh, oui.
Tu le vois quoi?
Le coin de l'œil, là, avec les cornes bien levées.
Ah, tu le vois ça? Ça, c'est pas bon?
Ça approche pas trop.
D'accord. Et elles chargent vraiment quand elles ont envie de charger, oui. Ou c'est juste pour...
Oui, ben elles, là-bas, tu vois, son veau à 3 jours.
Ouais. Faut pas aller la
pas
chercher.
Pas trop aller l'emmerder.
Mais le veau arrive à prendre tout le lait qu'il y a dans les pieds, ou il a pas besoin de tout,
oui.
Ça?
Non, non. Vite, près d'un kilo par jour, là, les veaux, là.
Un kilo par jour?
Pas loin, oui.
Waouh.
Oui, oui, oui.
Et ils mangent de l'herbe aussi, ou pas du tout?
Ouais.
D'accord, alors, magnifique troupeau. Hein. Elles sont toutes là?
Ouais. Il y en a une qui est dedans. Celle dont on a envoyé le veau à l'abattoir jeudi.
Et alors comment elles vivent quand tu es obligé de prendre le veau? Comment ça se passe dans leur tête?
Je suis pas dans leur tête.
Non, mais elles changent de comportement?
Ouais, oui, là elles râlent pendant 2-3 jours. Et puis après elles oublient. C'est pas le même rapport que nous. Hein. Enfin, faut remettre l'animal à sa place, quoi. C'est pas tout à fait.
Et elles ont chacune un nom, là?
Non. Non, non.
Et le taureau non plus?
Si, le taureau en a un.
Comment il s'appelle?
Toto.
Toto.
Mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le vendeur qui l'a choisi.
D'accord.
Notre production, hein, le taureau. Donc s'il a un problème de fertilité ou quoi que ce soit, et les vaches, on les garde une dizaine d'années.
Alors là, on assiste à une scène de tendresse. Le taureau, qui est hyper puissant, est en train de lécher le cou d'une vache qui semble vraiment prendre son pied. C'est très tendre, c'est magique. Pierre et Sophie, merci pour ce délicieux moment partagé dans votre lieu formidable, aux Infrus. Nous nous retrouvons, chers amis auditeurs, la semaine prochaine avec Claire, qui vit du côté de Massebio, à côté de Millau, et qui se promène avec ses ruches et ses très nombreuses abeilles. Nous la rencontrerons sur la commune de Broquies, dans un lieu extraordinaire parmi les châtaigniers, au-dessus du Tarn, en présence de notre ami Christian, apiculteur lui aussi. Amis auditeurs de Radio Saint-Ave sur Parole Rurale, si vous vous plaisez à écouter cette émission, si vous avez d'autres idées, des personnes à rencontrer, si vous voulez nous faire des commentaires, n'hésitez pas, nous avons besoin de vos retours. Nous passons beaucoup de temps à nous déplacer dans le département, à enregistrer, à monter les émissions. Et pour nous motiver davantage à poursuivre, merci de nous écrire. Parole au pluriel, rural au pluriel, @gmail.com. Avec Chantal, Christian et Pascal, nous aurons plaisir à vous répondre.